Voilà, gloire à Dieu, nous sommes encore aujourd'hui à l'écoute de notre Père, à l'écoute de notre Dieu, pour qu'il nous donne un sens à notre vie, pour qu'il nous donne des objectifs pour notre vie. Nous ne sommes pas là pour compléter le temps que Jésus vient nous enlever. Si Jésus nous a laissés sur terre, c'est qu'il y a un plan pour nous, il y a un objectif. Et à chaque matin qu'on se retrouve ici, on se retrouve sur Internet, c'est pour saisir la voix du Seigneur par rapport à ses objectifs qui justifie que nous soyons encore sur terre, parce que sinon, il nous aurait pris. Donc, s'il nous a laissés, ce n'est pas pour faire comme tous les humains, manger, dormir, bâtir un avenir terrestre. Pas du tout. Il a un avenir lié à la mission de chacun sur terre pour son royaume. Et nous devons être attentifs à cette voie-là. Nous ne devons pas compléter juste le temps et l'espace. Voilà, nous allons parler du réveil. Donc, pendant un certain nombre de séances, nous allons parler du réveil. Le réveil, c'est quand Dieu, par sa puissance, se manifeste à travers son peuple d'une manière surnaturelle, d'une manière puissante. Vous savez, Jésus avait dit, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc c'est ça, en gros, le réveil. Il y a une puissance que Dieu déverse sur son peuple afin de ranimer l'évangélisation, de ranimer la louange également, de ranimer l'adoration et de ranimer le lien avec lui, surtout parce que, comme on l'a dit dans les séances précédentes, mardi ou dimanche, le plus important, c'est le lien avec Dieu, parce que c'est Dieu qui tranche tout. Le plus important, c'est pas ce qu'on peut faire, mais c'est le lien avec lui. Donc le réveil, ça vient ranimer aussi le lien avec Dieu. Il y a toujours eu des réveils, on voit ça avec Josias, on voit ça avec Ézéchias, et dans le Nouveau Testament, on voit ça avec la venue de Jésus, la Pentecôte. Et il y a toujours eu comme ça à Éphèse, dans Acte 19, il y a eu un réveil. Les gens ont pris leur livre de magie, ils ont brûlé. Donc il y a une puissance qui a été dégagée pour sauver l'Asie mineure dans Acte des Apôtres. Et une puissance a été dégagée à cette époque-là pour toucher un grand nombre de personnes. C'est ça le réveil. Nous voulons le réveil parce que le réveil, c'est aussi l'état de gloire. Dieu nous appelle à la gloire. Jésus a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Nous voulons le réveil parce que les gens souffrent. Sans Dieu, même s'ils ne le disent pas, même si leur orgueil les empêche d'avouer cela, ils souffrent. Et nous, nous ne pouvons pas être là, à côté, voir la souffrance des autres, nous dire, eh bien, nous, on est dans la salle d'attente du paradis. Qu'ils souffrent, c'est leur problème. Non. On a vu le réveil à Ninive avec Jonas. Les gens se sont rattachés à Dieu, se sont rapprochés de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et souvent, quand il y a le réveil, il y a les miracles du Seigneur, il y a l'attestation de sa puissance qui montre qu'il est le seul Dieu par des miracles et des prodiges. Mais ce n'est pas pour glorifier l'homme, c'est pour glorifier Jésus-Christ. Donc nous commençons par lire Actes des Apôtres, hein, les conséquences du réveil qu'il y a eu après la Pentecôte. Donc un élément, nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 3, 1 à 12 je crois. 1 à 13.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai,
je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon.
Voilà, bien-aimés, dans la puissance qui est descendue le jour de la Pentecôte, que les apôtres ont reçue, Dieu se manifeste. Et Pierre peut dire à cet homme-là qui lui demandait de l'argent, à ce mendiant, il lui dit « J'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose qui peut te faire marcher. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Bien-aimé, cette assurance-là vient d'où? Est-ce que nous ne pouvons prier le malade que si on reçoit une telle force? Non. On est libre de prier pour tout aujourd'hui. Mais ça s'appelle prier. On prie pour tout. À n'importe quel moment, un chrétien peut prier pour tout. Et il s'attend que si c'est la volonté de Dieu, que Dieu agisse. C'est très important. On ne doit pas se restreindre. Cependant, quand Dieu dégage, envoie sa puissance, on reçoit comme un poids qui nous dit que Dieu veut guérir la personne. Et là, ce n'est pas une prière vraiment, c'est une prise d'autorité. C'est un ordre qu'on donne. Il dit, mais ce que je te le donne. Donc, Pierre savait qu'il avait la dose de guérison pour cet homme-là, en ce moment-là. Mais ça ne nous empêche pas de prier pour tout le monde à tout moment. Mais ça, c'est prier, on demande que Dieu agisse puisqu'on a foi. Il faut que notre foi s'exerce. Mais là, Pierre a une dose de puissance qui l'autorise à dire, j'ordonne que tu marches. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons expérimenter. Et nous n'inventons rien. C'est Jésus qui l'a dit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et il dit dans Marc 16, 17 à 20 que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça que nous voulons vivre. Juste la parole, ce qui a été promis. Nous n'inventons rien du tout. Mais pourquoi nous ne vivons plus cela? Puisque nous croyons même Jésus. C'est écrit Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc lisons le verset 12 et 13. 12 plutôt.
Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. »
Voilà. Continuons. On peut directement aller au verset 16.
C'est par la foi en son nom que...
Au nom de Jésus, hein, voilà. Quand on dit en son nom, là on a sauté des versets, mais c'est le nom de Jésus.
C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous.
Pierre nous dit que ce réveil-là, cette puissance-là, vient de la foi dans le nom de Jésus. On fait cette introduction très importante pour éviter les amalgames. Les choses qu'on va citer, que ce soit aujourd'hui ou dans les autres jours, ce sont des choses importantes pour le réveil, mais c'est Jésus qui produit ça. Ce n'est pas un homme. C'est ce que Pierre nous dit. Ça ne vient pas, il a dit au verset 12, « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété. Piété, ça veut dire pureté, attachement à Dieu. Voilà, c'est ça la piété. Attachement à Dieu, pureté, une vie spirituelle profonde, quoi. C'est ça la piété. Il dit, ce n'est pas parce qu'on est spirituellement profond que cet homme s'est levé. C'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé sa puissance parce qu'on a mis notre foi dans le nom de Jésus. Dit comme ça, ça paraît simple, mais la réalité est là. C'est que nous ne vivons plus ce genre de miracle à notre époque. C'est une réalité. Nous ne devons pas avoir honte de reconnaître cela. Aujourd'hui, c'est quand quelqu'un a acheté une maison que ça devient un miracle. Quand quelqu'un s'est marié, c'est ça que ça devient un miracle. Quand quelqu'un a eu un CDI, c'est ça que ça devient un miracle. Mais il y a beaucoup de païens qui ont des CDI, qui ont des maisons, qui se marient. Le miracle, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous ne sommes pas à la recherche des miracles. Jésus nous suffit. Mais nous sommes à la recherche de l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous sommes à la recherche du réveil pour sauver les âmes. Nous voulons la puissance de Dieu qui a fait que quand les gens ont vu cet homme-là marcher, beaucoup sont venus voir. Et en venant voir, ça a donné maintenant l'opportunité à Pierre d'annoncer la parole. C'est ce que nous voulons. Et Pierre donne la précision que ce n'est pas sa puissance ni son profond attachement à Dieu, mais c'est le nom de Jésus. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a guéri cet homme-là. Cependant, bien-aimés, voilà pourquoi nous faisons cette série sur le réveil. Cependant, Dieu ne donne pas sa puissance à n'importe qui. Même si ça n'a rien à voir avec l'homme, c'est ce que Pierre dit, ça n'a rien à voir avec nous, c'est la puissance de Dieu. Mais pourquoi nous ne vivons plus cela, puisque ça n'a rien à voir avec nous? Mais parce que même si ça vient que de Dieu exclusivement, Dieu ne la confie pas à tout le monde. Cette grande puissance, parce que je peux vous dire que c'est une grande puissance, la puissance du Saint-Esprit, qui peut faire lever un paralytique. Est-ce que vous avez déjà vu que le monde peut utiliser toute la puissance qu'il a, en bombe atomique, en machine, accélérateur de particules, tout ce que vous voulez, en avion, fusée. Aucune de ces puissances ne peut faire marcher un paralytique. Que le paralytique retrouve la grosseur instantanée de ses membres, instantanément de ses membres, ça, le monde ne peut pas faire ça. Donc c'est une grande puissance. C'est une grande puissance parce que c'est la puissance qui chasse les démons. Les démons sont très forts, sont très puissants. Cette puissance-là les chasse. C'est une grande puissance. Dieu ne va pas donner à n'importe qui de gérer une telle puissance. Il veut que ça soit sérieux. Pour la simple raison que quand quelqu'un qui n'est pas sérieux a une grande puissance dans ses mains, il va faire beaucoup de dégâts. C'est ce qui explique que notre Église, l'Église de notre époque, n'a plus cette puissance-là, sauf quelques exceptions. Qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi nous ne voulons pas parler au nom du monde entier à 100%. On parle au nom de ce que nous voyons aujourd'hui régulièrement. Quelqu'un a dit, mais oui, mais peut-être à notre époque, puisque la médecine a évolué, c'est pourquoi il n'y a plus trop ces miracles-là. C'est faux. Pour avoir été malade, d'une maladie dont on m'a dit, hein, par mon médecin, c'est incurable. Il a dit, on ne peut pas faire marche arrière. Donc, je suis au courant d'un tas de maladies que notre médecine ne peut pas guérir. D'un tas de maladies, parce que quand tu vas à l'hôpital, c'est là que tu comprends que la réalité, c'est que la médecine guérit peu de choses, finalement. Peu de choses. Beaucoup de maladies sont chroniques. Et la médecine calme. Ça tranquillise. Mais la maladie est toujours là. Notre monde aussi a besoin de guérison aujourd'hui, de guérison physique. Imaginez le nombre de fous qu'il y a dans les hôpitaux psychiatriques, le nombre de dépressifs. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins. Mais Jésus-Christ a délivré le démoniaque de Gadara qui dormait dans les cimetières. Le nombre de voyants qu'il y a, Paul a chassé les démons d'une voyante. Notre monde a encore besoin des miracles. Mais il y a un problème. C'est ça l'objet de nos méditations pendant un certain nombre de temps par rapport au réveil. Et aujourd'hui, nous allons citer le premier problème. Le premier problème, c'est la prise de conscience du péché. La prise de conscience du péché. L'Église de notre époque a perdu la notion du péché. La prise de conscience du péché. Nous sommes dans une logique d'activité et non pas de perfectionnement, non pas de sainteté, non pas de ressemblance à Christ, mais les chrétiens d'aujourd'hui fonctionnent dans une logique d'activité. Quantité de prières, quantité de séminaires, quantité d'évangélisation, quantité de ceci. Donc c'est plus ça qui définit un chrétien et non la ressemblance à Christ et non la simplicité, l'amour, la pureté. On a perdu la notion du péché. Aujourd'hui, le péché qui intéresse les chrétiens, c'est l'impudicité, l'adultère. Là, oui, tout le monde est au courant de ça, connaît ça. Mais plein d'autres péchés. Le vol. Le mensonge, l'impolitesse, la jalousie surtout, surtout la jalousie, le mécontentement vis-à-vis de Dieu. Beaucoup ont des mécontentements dans le cœur vis-à-vis de Dieu et ils ne demandent pas pardon. Suis-je en train de dire que dès qu'on a péché, c'est fini? Non. Puisque le sang de Jésus est là pour nous pardonner. Mais moi, je parle de la prise de conscience du péché. On néglige le péché aujourd'hui. Or, lisons Romains 3, 23. Qu'est-ce qui nous a amenés dans cet état alors que Dieu avait tout bien fait dans le jardin d'Éden? Il est écrit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Tout était bon. Même l'homme était bon. Mais qu'est-ce qui nous a amené à tout ceci? L'homme vivait dans la gloire parce qu'il pouvait côtoyer des animaux qu'on appelle dangereux et sauvages aujourd'hui. Lui, il pouvait vivre avec eux. Sans qu'il y ait de problème. L'homme vivait dans la gloire. Parce qu'il n'y avait pas de maladie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Romains 3, 23.
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Tous ont péché. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de sa présence qui éloigne la détresse, la mort et le mal. C'est le péché le problème de l'humanité. Nous vivons une époque où le péché est négligé. Les gens s'intéressent à l'activité. Ils s'intéressent au titre, Il s'intéresse à la reconnaissance des humains. Mais les gens ne se posent pas des questions sur l'approbation divine. Est-ce que ce que je fais est approuvé par Dieu? Non, non. C'est plutôt, est-ce que ce que je fais rapporte, a du succès? Quand c'est oui, ah, donc Dieu m'approuve, puisqu'il y a du succès. Dieu m'approuve, puisque ça se passe bien. Les gens ne s'intéressent plus au péché. Et nous sommes, à cause de ça, privés de sa gloire, l'Église de notre époque. Nous devons à nouveau prendre conscience du péché. Ce n'est pas notre perfection qui va amener le réveil. Mais nous devons prendre conscience de ça et rejeter le péché parce que Dieu ne confiera pas la grande puissance à des gens qui vont l'utiliser pour détruire. Parce que quand on néglige le péché, la puissance de Dieu sera dans la possession du diable. Parce que le diable, puisque le péché l'autorise à nous gérer, eh bien, il finira par gérer la puissance que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas notre sainteté qui va attirer le réveil, mais notre sainteté va apaiser Dieu pour nous envoyer le réveil. Il va dire, bon, ces gens-là sont sérieux. Ils ont compris le problème de l'humanité. Pourquoi donner la puissance aux gens qui n'ont pas compris? Est-ce qu'on donne un couteau à un enfant de 2 ans? Parce qu'il ne va pas en comprendre l'utilité, il peut se blesser. On donne le couteau à quelqu'un qui sait qu'on en a besoin pour couper les oignons. Il va utiliser ça pour ça. On ne donne pas la puissance à quelqu'un qui ne comprend pas l'objet de cette puissance. L'objet du réveil, l'objet de la puissance de Dieu, c'est nous réconcilier avec Dieu, réconcilier l'humanité avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu? C'est le péché. Le péché, c'est le problème de l'humanité. Alors pourquoi Dieu va déverser la puissance si on ne comprend pas ça? Je répète, ce n'est pas notre pureté qui va entraîner le réveil, c'est Dieu qui agit. Mais pourquoi va-t-il agir avec les gens qui n'ont pas compris l'objet de la puissance? Il faut comprendre l'objet de la puissance. C'est pour réconcilier les hommes à Dieu, c'est pour nous donner la victoire sur le péché. Puisque c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui autorise Satan à détruire. C'est ça la réalité, bien-aimés. Nous devons prendre conscience du péché. Il est écrit, c'est le péché qui nous a privés de la gloire de Dieu. Lisons également Romains 6, 23 à 24. Romains 6, 23 à 24.
Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Donc le Seigneur, quand il envoie le réveil, il envoie la puissance, c'est pour donner la vie aux gens. Donner la vie, c'est quoi? Bibliquement, c'est sortir les gens du péché pour les amener dans le royaume de Dieu. Le sortir du royaume du péché. Maintenant, si on ne comprend pas que le péché est mauvais, comment Dieu peut nous faire confiance? Il ne peut pas. Nous traînons à cause de ça. Beaucoup, en se convertissant aujourd'hui, rapidement, ils se confient dans les activités. Ils ne cherchent pas la pureté, la perfection. Ils ne cherchent pas à ressembler à Christ, mais ils cherchent à être top, au milieu des humains. Sortir un album, bien chanter, mais ils ne cherchent pas à ressembler à Christ. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Nous lisons Ésaïe 59, 1. Ésaïe 59, 1. Bien-aimés, prenons conscience du péché. Le péché a détruit l'humanité. Le péché a créé des guerres et continue à en créer. C'est le péché qui crée les violeurs. C'est tout ça, c'est le péché. C'est le péché qui rend malade. On m'a parlé d'une jeune fille qui est encore jeune, mais dont les deux reins ne fonctionnent pas. Donc, vous imaginez quelle hécatombe, quoi. Quelle détresse. Ça fait mal d'entendre ça. La Bible nous dit que tout ça vient du péché. Nous devons prendre conscience que le péché est mauvais. Nous devons prendre conscience de ça. Et c'est ça qui nous coupe de Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe 59, 1 ? Ensuite, nous lirons Jean 9, 31.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Mais
ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Voilà. Ce sont vos péchés. Le péché, non seulement ça détruit, mais ça nous cache Dieu. Le péché est mauvais. Moi, je ne veux pas parler des réveils, hein. Même si je peux en parler rapidement comme ça. Je vais insister sur la Bible. Mais dans la plupart des réveils qu'il y a eu, Pays de Galles, aux Hébrides, même en France, les réveils qu'il y a eu, ça commence toujours par des gens qui confessent leurs péchés, qui demandent pardon à cause de leurs péchés. Partout. Et quand vous lisez Actes des Apôtres, que ce soit 2:38, que ce soit 3:19, toujours, il est question de repentez-vous. Repentez-vous et convertissez. Repentez-vous. Donc le réveil vient avec le mot suivant, repentez-vous. Quand Jésus-Christ commence à prêcher, il dit quoi ? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La prédication, c'est repentez-vous. Il n'y a pas d'autre prédication. C'est le péché le problème. C'est le péché le problème. Et quand l'Église commence à négliger ça, il y en a qui négligent le péché parce que mais les pasteurs eux-mêmes pêchent. Et donc il se dit dans son cœur, pourquoi pas moi ? Mais ce n'est pas le pasteur qui va te juger à la fin des temps. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est une erreur. Il y en a qui se disent, ah mais oui, mais celui-là qui m'a amené au Seigneur, celui-là qui a 10 ans d'expérience plus que moi, mais lui-même il pêche. Donc pourquoi pas moi ? Mais c'est... Le jour du jugement, ça ne sera pas ça. Dieu te jugera en fonction de sa parole. Bien-aimé, le péché est dangereux, ça nous cache la face de Dieu. On ne peut plus voir Dieu. Dieu ne nous écoute pas. Ésaïe dit, la main de Dieu n'est pas courte. Pourquoi Dieu ne fait plus les miracles aujourd'hui ? Parce que les gens négligent le péché. Ils pensent que la jalousie, ce n'est pas grave. Ils pensent que mentir, c'est pas grave. Je connais des pays d'Afrique centrale où le mensonge, c'est vraiment comme si tu mangeais une friandise. Hein. Comme si tu mangeais un gâteau. Les gens, quand ils mentent là-bas, ils sont vraiment heureux. Le péché est banalisé. Et Ésaïe avait prophétisé ça dans Ésaïe 5, 20. Il avait dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. On commence à appeler mal bien, bien mal. Et Dieu ne peut pas envoyer sa puissance. Il dit, sa main n'est pas courte, mais nos crimes, nos péchés le séparent de nous. Nous devons nous repentir. Chacun doit confesser ses péchés. Si nous voulons voir la main de Dieu, nous devons nous repentir. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas l'habitude de confesser ou ni de se repentir. Mais je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de péchés aujourd'hui qu'on néglige et dont on ne se repent même plus. On a banalisé les choses. Ou même quand on s'en repent, c'est juste religieusement pour la forme. On ne veut pas vraiment arrêter avec ça, puisqu'on s'estime dans son droit de, parfois de faire ça. On se dit, c'est juste Dieu qui interdit, quoi. Mais pourquoi pas moi, je ferais ça ? Et du coup, ce sont de mauvaises repentances, puisqu'on condamne Dieu un tout petit peu dans cette repentance-là. Ou on condamne, souvent on condamne pas Dieu, on ne veut pas citer Dieu, mais on cite l'Église. Pourquoi nous attaquer pour telle chose? Pourquoi? Mais bien aimé, ce n'est pas une Église qui va te sauver, c'est Dieu. Et c'est Dieu aussi qui va te juger. Et ce Dieu dit que sa main est courte. Elle n'est pas courte, mais sa main est bloquée à cause des péchés. Mensonge, sans problème. Jalousie, sans problème. Mauvaise parole contre les uns et les autres, sans problème. Aujourd'hui, beaucoup dans des églises, ils ne sont pas encore mariés, mais ils sont fiancés. Physiquement, ils vivent ensemble, sans problème. Ils ne sont pas mariés, ils sont fiancés. Mais quand ils tombent, ils se disent, mais oui, mais on se mariera. C'est faux, c'est un péché, parce que nous connaissons beaucoup de fiançailles qui se sont arrêtées. Vous imaginez maintenant le nombre de péchés que vous allez commettre. On connaît qui se sont arrêtés. Et dans les églises aujourd'hui, les gens se disent, mais on va se marier. Mais non, mais on va se marier, vous n'êtes pas encore mariés. Les fiançailles peuvent s'arrêter. De se connaître physiquement avant le mariage, c'est un péché grave. Mais les gens ne s'en repentent plus, ou bien ils s'en repentent seulement, bon, intellectuellement, mais au fond d'eux, c'est comme, ah, mais on va se marier. Non, bien-aimé. La main de Dieu s'est arrêtée à cause de tout ça. On ne blague pas avec Dieu. Dieu voit tout, bien-aimé. Il voit tout. Il y a des gens qui pensent que faire, comment dire, des coups bas à son mari ou à sa femme, ben, c'est des difficultés, c'est des problèmes d'amoureux, quoi. C'est faux! Un coup bas, c'est un coup bas. Tu fais un coup bas à ton mari, tu fais un complot avec ta famille contre ton mari ou contre ta femme, c'est pas bon, c'est un péché. Même si elle est mauvaise, même s'il est mauvais. Il y a plein de péchés comme ça dans les églises que les gens laissent passer à cause de l'activisme. Je vais à l'église, je prie, je fais ceci. Non. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Le Seigneur dit carrément dans Marc 11, 24 à 25, si vous ne pardonnez pas, Marc 11, 25, Dieu non plus ne va pas vous pardonner. Si vous ne pardonnez pas. Mais les gens estiment que l'autre a tellement exagéré que je peux retenir mon pardon. Mais non, c'est un péché grave. Grave. Dernièrement, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui s'est retrouvé en enfer et discutait avec Dieu. Lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dieu lui a dit, mais tu n'as pas pardonné. Il a dit, juste pour ça, mais oui, c'est très, très grave. Dieu lui a dit, refuser de pardonner, c'est refuser aussi mon pardon. C'est très, très grave. Les gens se cachent derrière le coup subi pour dire, il m'a fait trop mal, elle m'a fait trop mal. Ça n'excusera pas le départ en enfer. Parce que toi aussi, tu as fait trop mal à Dieu par tes péchés. Mais Dieu t'a pardonné en amenant son fils à la croix pour toi. Et toi, tu ne pardonnerais pas le péché de ton frère, de ta sœur, de ta femme, de ton mari, de ton père, de ton enfant. Non. Et tout ça se vit au milieu de nous. Et on fait quoi? Relation d'aide. On prend quelqu'un comme si c'était un client, comme si c'était, comme on dit dans le monde, le client est roi. Voilà, on va faire une relation d'aide pour que tu pardonnes à tes parents. Quoi? Dieu dit, tu pardonnes. Tu pardonnes. Dieu n'a pas le temps de dire, comprends tes parents. Amen. Dieu te dit, moi je t'ai pardonné, tu pardonnes aussi. Dieu va te dire, comprends-moi. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour toi? Si tu me comprends, tu pardonneras à tes parents. Mais nous ici dans le monde, on dit, bon, comprends tes parents. Eux-mêmes aussi ont subi des choses. Eux-mêmes maintenant. Donc on veut te supplier en quelque chose de pardonner. Dieu ne te supplie pas. Dieu te demande d'être honnête, de te souvenir de ce que lui il a fait pour toi. C'est ça que Dieu veut te dire. Dieu te demande d'être sérieux. Souviens-toi que son fils est mort à la croix pour toi. Alors toi, si tu pardonnes. Et ces péchés-là sont là, au milieu de nous. Et on ne comprend pas qu'il n'y ait pas de miracle. On ne comprend pas qu'il n'y ait pas de réveil. Et on commence à inventer les faux réveils nous-mêmes qu'on crée par la publicité. On invente la puissance du Saint-Esprit par les tremblements. Quelqu'un qui tremble, il y avait la gloire. C'est faux! Nous, on pleurait aussi avec les Bob Marley. Hein. Michael Jackson, quand il passait quelque part, les femmes tombaient hein, d'émotion. Bah! Évanouies. Elles tombent évanouies par la présence de Michael Jackson. Il y en a qui criaient. Même des adultes. Vous savez que dans le monde, j'avais vu un spectacle où c'était rempli que de grandes personnalités et de vedettes. La salle s'était remplie de vedettes et de grandes personnalités. Donc, ça s'appelle, j'ai oublié, on célèbre à chaque fois la carrière d'un musicien, d'un sportif. Voilà, ce sont ces événements-là aux États-Unis, j'ai oublié le nom. Et cette fois-ci, c'était le tour de Sammy Davis qui avait fait 60 ans de carrière dans le showbiz. Bien-aimé, tout le monde est passé, les Magic Johnson, les Eddie Murphy, tous ces gens-là sont passés. Mais quand Michael Jackson est entré, les vedettes, eux, elles-mêmes ont crié. Donc, eux-mêmes sont ces gens-là sont déjà eux-mêmes des gloires. Mais quand cet homme-là est entré, tout le monde s'est levé à crier. Bien-aimé, est-ce que ça, c'est la gloire de Dieu? Mais non! Mais où on voit la gloire de Dieu? Je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Là, la différence s'est faite. Donc, il y a eu la foule qui est venue. Tu vas dire quoi, là? Tu vas dire quoi? Appelez-moi un féticheur qu'il fasse ça. Impossible. Impossible, je vous dis. Ce n'est pas pour rien que Jésus disait. Croyez au moins pour les miracles que je fais. Mais si Jésus pensait que le diable aussi peut faire ses miracles à lui, il ne dirait pas ça. Si Jésus a dit qu'on croit pour les miracles aussi qu'il fait, ces miracles à lui, le diable ne peut pas les faire. On dit que le diable va séduire les gens par des prodiges. Mais c'est des prodiges qui ne vont pas être comme les miracles de Jésus. Il pourra peut-être agiter des choses dans le ciel. Il peut peut-être faire pleuvoir un tout petit peu. Il peut faire des choses. Mais ressusciter un mort, guérir un paralytique, cherchez-moi le féticheur qui fait ça. Cherchez-moi. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, croyez au moins pour les miracles qui se passent là. Parce que ça, même Nicodème, quand il vient, il dit, je ne suis pas 100% avec toi, Jésus, mais les miracles que tu fais, seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut le faire. Là, la différence est faite. Mais nous manquons cette différence-là. Nous reconnaissons la main de Dieu dans beaucoup de nos guérisons. C'est vrai. Mais ce sont des guérisons qui peuvent être disputées avec les médecins. Le médecin va dire, mais non, mais moi aussi, je t'avais donné quelque chose. Même quand tu glorifies Dieu devant le médecin, lui se dit, mais pourquoi tu es venu chez moi alors? Nous reconnaissons que c'est Dieu qui agit. Mais est-ce qu'il y a encore cette gloire-là qui fait différence, de sorte que même le médecin reconnaisse que ce n'est pas lui? C'est ce que nous voulons, afin que ce médecin-là réfléchisse sur son salut. Mais qu'est-ce qui bloque? Le péché. C'est le péché. Manque de pardon dans les couples. les coups bas. Ah, mais puisqu'il m'a parlé comme ça, je ne cuisine pas. Tu crois que tu as affaire à un homme, tu as affaire à Dieu. Puisque papa m'a parlé comme ça, allez, je sors. Je reviens comme 23 heures. Ah ben, tu crois que tu as... Et après, le dimanche, tu es là. Tu es ma gloire. Dieu dit, oh, je ne te vois même pas. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans Isaïe 59. Je ne te vois même pas. Vos crimes font que je ne vous vois pas. Vous savez, dans les derniers temps, les gens diront, en ton nom, Jésus, on a fait ceci, cela. Il dit, je ne vous connais pas. Parce que vous ne faites pas la volonté de mon Père. Le péché est grave. On doit en prendre conscience. La bonne nouvelle, nous l'avons lue dans Romains 6. Nous sommes dans Romains 3, 24, on n'a pas lu, mais dans Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Jésus nous pardonne. 1 Jean 1, 9 nous dit qu'il est fidèle pour nous pardonner. Et son sang nous purifie de toute iniquité. Mais il faut qu'on reconnaisse le péché. Moi, je ne suis pas en train de parler du manque de pardon de Dieu. Je suis en train de parler du manque de prise de conscience du péché chez nous. Je ne suis pas en train de dire que le réveil ne se fera qu'avec des gens parfaits. Non, avec des gens simples comme nous. Pierre, vous êtes quand même témoin que Pierre n'était pas parfait. Ce Pierre-là qui a fait le miracle dont on parle là. Vous êtes témoin qu'il n'est pas parfait. Vous êtes témoin qu'il avait renié le Seigneur. Vous êtes témoin que même après tous ces miracles-là, il a quand même usé d'hypocrisie chez les Galates. Vous connaissez tout ça. Mais il pouvait reconnaître son tort. Il pouvait reconnaître son péché. Moi, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, nous ne reconnaissons plus le péché. Et dès que quelqu'un parle du péché, allez, on l'estampille. À lui, il ne parle que du péché. Il empêche les gens de vivre. On avait un jeune frère qui, à l'époque, il était un frère qui, à l'époque, quand il était jeune, une vingtaine d'années, eh bien, il était parti à la police pour ce problème de nationalité, pour sa question de nationalité. Et dans l'enquête, on lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il dit qu'il joue à la batterie. On lui dit où? Mais il dit dans un choral. Où? Il dit, ben dans, il donne l'adresse de l'église. Et c'est le policier qui lui dit, mais j'ai un tel pasteur qui empêche les gens de vivre. Vous voyez, la notion, c'est que parler du péché, c'est empêcher les gens de vivre, laisser les gens respirer. Mais non, bien-aimé, on parle, le péché amène la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Parler du péché, c'est amener les gens à la vie. Et nous ne sommes pas en train de parler du péché dans le sens de « il est interdit ceci, il est interdit cela ». Nous sommes en train de parler du péché dans le sens que il faut chercher à devenir comme Jésus. S'éloigner du mal. S'éloigner du mal. Et le mal, on le sait que c'est un mal. On le sait. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible, on sait que c'est un mal. On le sait. Je n'ai pas besoin d'en parler. La Bible dit le Saint-Esprit convaincra. On n'est pas là pour citer toute la liste des péchés. Non. On est en train de dire le péché, ce n'est pas bon. Reconnais-le. Quand tu détestes ta mère, tu détestes ton père, c'est pas bon, même s'il est mauvais. C'est pas bon. Reconnais-le. Reconnais-le. Ne négligeons aucun péché. C'est très important, bien-aimé. Quand tu n'aides pas le frère qui en a besoin, qui a besoin d'aide, c'est un péché. L'apôtre Jacques le dit, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, pêche, dans Jacques 4. Reconnais-le. On n'a pas encore fini. Le péché nous sépare de Dieu. Et lisons, on a lu Jean 9, 31. On va le lire. On a déjà lu? On va lire Jean 9, 31.
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce.
Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et je l'ai dit, ça ne fait pas des gens qui sont purs, ça ne fait pas d'eux que c'est eux qui produisent la puissance. Pas du tout. C'est la puissance de Dieu. Donc même si tu es correct et que Dieu agit à travers toi, c'est pas ta puissance. C'est la puissance de Dieu. Mais simplement, Dieu ne peut pas collaborer avec quelqu'un qui est léger. Il ne peut pas collaborer avec quelqu'un qui néglige le péché alors que lui, s'il a envoyé son fils, c'est à cause du péché. Lui, s'il veut sauver les gens, il veut les sauver du péché. Il ne peut pas collaborer avec quelqu'un qui néglige cette notion-là. Il ne peut pas. C'est pourquoi il dit, il n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui fait sa volonté, donc c'est lui qui comprend pourquoi Dieu va dégager la puissance. Mais là, Dieu travaille avec la personne. Pourquoi le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne vais pas vous pardonner. C'est parce que ça voudrait dire que si tu n'as pas compris ce que lui l'a fait pour toi. Parce que si tu avais compris ce que lui l'avait fait pour toi, toi aussi tu pardonnerais simplement. C'est ça la réalité. Donc il dit, mais je vais travailler avec quelqu'un comme ça, il ne comprend pas ce que j'ai fait pour lui. Parce que pardonner aux autres, c'est comprendre ce que Jésus a fait pour nous. C'est pourquoi le ciel est fermé, bien-aimé. Le péché est négligé. La vie chrétienne, c'est personnel. Tu ne dois pas te utiliser le péché des autres pour te croire meilleur. L'unité de mesure, ce n'est pas l'autre. L'unité de mesure, c'est Jésus. C'est avec lui. C'est à lui que tu dois te comparer. Tu ne te compares pas aux autres. En se comparant aux autres, on sera toujours les premiers. Toujours. Parce qu'effectivement, nos regards dans lesquels se trouve quoi? Jésus nous a parlé de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le regard? Il y a la poutre. Il y a une grosse poutre qui fait que tu ne vois pas bien, tu ne vois que la paille qu'il y a chez l'autre. Jésus dit, notre regard sur l'autre est déjà mauvais. Commençons par régler nos problèmes à nous. Dieu s'occupera des autres. C'est de la poutre qu'il y a en nous-mêmes, on doit s'occuper. Beaucoup de gens, à cause du péché des autres, à cause des péchés des autres, ils ne regardent pas à leur propre péché. Jésus a dit aux gens qui voulaient lapider la dame adultère, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Bien-aimé, ce que Jésus a vécu avec la dame adultère, c'est ça l'église d'aujourd'hui. On ne connaît qu'un seul péché, le péché sexuel. Les autres, on les comprend. Et même le péché sexuel, quand il n'est pas flagrant, eh bien on le néglige. On peut se permettre de regarder les mauvais films. Et on ne demande pas pardon. C'est pas normal. C'est-à-dire que quand on voit sur YouTube, il y a un péché grave qui s'est commis là maintenant. C'est que toi tu commets tous les jours. Quand tu fais des excès de table, c'est un péché. Tu as mal au ventre parce que tu as trop mangé. C'est un péché. Ça ne se règle pas seulement en prenant du thé. Ça se règle en confessant. Bien-aimé, le péché, c'est l'obstacle vis-à-vis de Dieu. Le péché, c'est le problème qui fait que Dieu envoie sa puissance pour nous dégager du péché. Maintenant, quand il voit que nous, on néglige le péché, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger la puissance de Dieu au péché. Et on finira mal, parce que le Seigneur dit clairement, je ne vous connais pas à la fin. Oui, mais on a prêché, je ne te connais pas. Tu as négligé le péché. Bien-aimé. Résistons et refusons le péché. Sous toutes ses formes. de faux bulletins de paye. C'est pas bon. C'est le péché. C'est pas bon. Travail au noir, c'est pas bon. Ne négligeons rien, bien-aimés. Je ne suis pas parfait. Mais ne prenons pas en vain la grâce de Dieu. Au contraire, puisqu'il y a la grâce de Dieu, allons confesser nos péchés. Allons nous repentir. Il est écrit dans Marc 4, 22, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Ne négligeons pas. Le manque d'assistance aux autres, c'est un péché. Et, bien aimé, nous lisons dans Jean 8, 34, quelque chose de très important. Jean 8, 34.
En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Quiconque se livre au péché, c'est-à-dire quiconque ne résiste pas au péché, quiconque ne lutte pas contre le péché, qui se laisse faire par le péché, il va en devenir esclave. Il est même parfois esclave sans s'en rendre compte. Alors bien aimé, quand je suis en train de parler du péché, ce n'est pas pour l'esthétique du ciel. C'est parce que le péché, c'est un royaume aussi qui peut nous rendre esclaves. On doit choisir dans quel royaume nous voulons vivre, le royaume du péché ou le royaume de Dieu. Car lorsque nous ne confessons pas, lorsque nous nous défendons, lorsque nous nous justifions alors qu'on pêche, et on dit que c'est à cause des autres, c'est la faute des autres, alors que c'est toi qui pèches. C'est qu'on se maintient dans le royaume du diable, dans le royaume du péché. Jésus dit, moi, je ne peux pas avoir pour serviteur quelqu'un qui est déjà serviteur de quelqu'un d'autre, non. Il faut choisir. Tu veux être serviteur de Dieu ou serviteur du péché, serviteur du monde. Et c'est un verset qu'on n'a pas peut-être mis en écrit, mais je vais le lire rapidement dans Jean 4, 4. Il est écrit, bien-aimé, l'amour du monde. C'est le plus grand problème qu'on a dans notre époque. Je vais clôturer avec ça. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Quelqu'un qui aime le monde est ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Est-ce que nous entendons ça, hein? Même si ça n'a pas été prévu, Diakfrel, tu peux lire quand même. Donc, l'amour du monde est inimitié. Jacques 4, 4 est opposition avec Dieu. Parce que comme je dis, je ne vais pas citer tous les péchés. Il y a des péchés même qui ne sont pas écrits, mais toi-même, tu sais que là, ce n'est pas un enfant de Dieu qui doit faire ça, qui doit être dans ça. Et au lieu de te justifier, repens-toi. Écoute, vous savez, quand David a fait le dénombrement, son cœur a commencé à battre. Il a su qu'il avait péché. Écoute le Saint-Esprit. Nous lisons Jacques 4, 4.
Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
Ennemi de Dieu. Et vous pensez que l'ennemi de Dieu va vivre, recevoir la puissance de Dieu pour faire des miracles ? L'ennemi de Dieu va aller au ciel ? Ah non, bien-aimé. Alors, c'est ce péché-là qui est officialisé aujourd'hui dans les milieux chrétiens. L'amour du monde. Un chrétien qui ne pense qu'aux objectifs terrestres. Il est dans l'amour du monde. Puisque Matthieu 6, 33 dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Les missionnaires d'autrefois, vous pensez que ce n'étaient pas des humains qui n'avaient pas un ventre pour utiliser pour manger? Ils avaient un corps pour vivre la débauche. Ils en avaient. Mais eux, ils appliquaient la Bible qui dit que l'amour du monde est inimitié. quelqu'un comme Charles, j'ai oublié son nom, l'anglais, quelqu'un qui était l'un des plus grands joueurs de cricket. Vous savez que le sport le plus important en Angleterre, c'est ça, le cricket, en Inde, tout ça. L'un des plus grands joueurs, riche, héritier d'une grande famille, qui laisse tout ça pour aller dans les années 1900, c'est pas aujourd'hui où il y a l'électricité partout, dans les années 1900, qui va aller au Congo, là où personne n'est jamais arrivé, dans la forêt équatoriale. Ils avaient compris que l'amour des millions de sa famille était inimitié avec Dieu. C'est lui qui, quand il se marie avec sa femme, ils se sont jurés que personne n'empêche l'autre de servir Dieu. Voilà les gens qui ont compris c'est quoi la vie chrétienne. Aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est l'amour du monde. On veut copier les gens du monde. Saint-Valentin, des trucs comme ça. Inimitié avec Dieu. Attachement aux choses de la terre. Inimitié avec Dieu. Est-ce que je suis contre qu'on mange? Non, bien-aimé. Est-ce que je suis contre qu'on s'habille? Non. Mais j'ai dit tout ça, Dieu va s'en occuper. Nous occupons-nous de son royaume, Dieu s'occupera de ça. Dieu sait qu'on doit manger, il sait qu'on doit s'habiller, il sait qu'on doit avoir des maisons. Mais il te demande, toi, d'aimer son royaume, de chercher d'abord son royaume. L'amour du monde fait de nous des ennemis de Dieu. Où un chrétien ne pense qu'à ça, à sa réussite sur terre. Il ne pense pas, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Non! Quel est le projet qui me rendra stable? Qui me donnera ceci? Non! C'est le péché le plus courant. Encouragé par qui? Par l'évangile de prospérité. Encouragé par quoi? Par cet évangile-là. Encouragé par qui? Par les faux pasteurs de l'église, de l'évangile de prospérité, qui nous disent il faut réussir, il faut marquer son temps, il faut avoir du succès. Si tu es avec Dieu, non. Il faut imiter Jésus. Il faut vivre à 100% pour Jésus. Il faut vivre sa parole. Il faut s'éloigner du péché. Le péché, c'est ça qui fait la différence entre les vrais serviteurs et les faux serviteurs. Ce n'est pas la foule, ce n'est pas l'argent. C'est leur attachement à refuser le péché qui fait la différence. Bien-aimés, sortons de l'amour du monde. Tu n'es pas obligé de te marier comme tout le monde au même moment, au même âge. Non. Ce n'est écrit nulle part. Au contraire, l'apôtre Paul ne s'est pas marié. On n'est pas obligé pour être heureux d'être avoir un mari ou une femme. Non. C'est l'amour du monde. Nous devons chercher Dieu. Et si Dieu juge que c'est bon pour nous de nous marier, il nous enverra l'homme et nous enverra la femme. On n'est pas obligé d'acheter une maison. C'est le Saint-Esprit qui conduit tout. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le Saint-Esprit vous conduira dans le reste. On n'est pas obligé d'avoir bac plus 40. Le Saint-Esprit conduit tout. L'attachement au monde est dangereux. Nous sommes là, les gens étudient, ils font du sport, mais c'est Dieu qui doit suivre. Dans tout ça. Et si Dieu dit tu arrêtes, tu arrêtes. Tu suis Dieu. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Et c'est un péché qu'on retrouve même dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un, il prêche pour chercher le nombre. Il chante pour chercher le succès. Il fait les choses pour séduire sa femme au lieu de faire les choses pour éduquer sa femme à aimer Jésus. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais ça c'est de l'extrémisme. Ce n'est pas grave. Moi, je lis la parole. C'est écrit. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Les méthodes du monde, c'est inimitié avec Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Naturellement, bien-aimé, Dieu lui-même te mettra à cœur d'acheter un cadeau pour ton mari ou pour ta femme. Dieu peut te le mettre à cœur. Toi, tu crois que Dieu ne connaît pas toutes ces choses-là? Mais au lieu de te faire confiance en Dieu, tu fais confiance en ce que tu as vu à la télé. Ou bien quelqu'un, ou tu vois un couple faire ça, toi tu veux imiter. Est-ce que tu sais si ce n'est pas Dieu qui l'a conduit, lui? Non. Chacun a son parcours. Mais nous devons nous éloigner du péché. Bien-aimés, lisez. Vous savez, si Dieu a fait qu'il y ait les sacrifices dans l'Ancien Testament, c'est à cause du péché. Il dit, je ne peux pas habiter avec vous. Vous êtes dans le péché. Alors, pour habiter avec eux, il a fallu construire le tabernacle où on fait les sacrifices qui permettaient le pardon temporaire pour que lui vienne habiter. Dieu ne peut pas habiter avec nous. Le réveil, c'est Dieu qui habite avec nous. C'est Dieu qui nous visite. Mais Dieu ne peut pas nous visiter quand on néglige le péché. Il est pur, lui. Il ne peut pas habiter là où il y a le péché. Alors, bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Arrêtons de nous défendre. Repentons-nous. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Il nous donnera la force de vivre sans péché. Même si tu tombes aujourd'hui, repens-toi. Demain encore, tu te repens. Mais n'accepte pas le péché. Ne te livre pas au péché. Ne te justifie pas. Refuse ça. Et reçois la vie du Seigneur. Le réveil est bloqué à cause de ça. On ne va pas trop polémiquer. Lisons 2 Timothée 2, 19 pour clôturer. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui parle. 2 Timothée 2, 19. Vous savez, Paul avait eu aussi beaucoup de polémiques. Il y a des gens qui le contestaient, comme Jésus aussi. Mais Paul va donner un résumé. Il va dire, oh, ne nous embêtons pas quelle est la bonne, sur la bonne doctrine. Quelle est la bonne doctrine? Quel est ceci? Qui est vrai? Qui est faux? Il y a un moyen de le savoir. Lisons 2 Timothée 2, 19.
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
Qu'il s'éloigne du mal. Et Job 28, 28 nous dit, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. L'intelligence, ce n'est pas avoir la meilleure doctrine. L'intelligence, c'est comprendre que Dieu, c'est l'opposé du mal. Donc moi, je dois être comme Dieu. Je dois être amour. Bien aimé, il suffit de cette notion-là pour comprendre que l'islam est dans le faux. Parce que quand un homme peut avoir une femme de 9 ans, on sait déjà que la personne est dans le faux. C'est ça. Si quelqu'un veut être pur, qu'il s'éloigne du mal. Quand quelqu'un est branhamiste, là, je voyais sur YouTube, un pasteur branhamiste, à côté de lui, il y avait la photo idolatrique de Branham. L'idolâtrie est là. Est-ce qu'on a besoin de commencer à énumérer la doctrine pour comprendre que cet homme est dans le mal? Mais pourtant, l'homme parlait avec droiture. Hein. Il disait, il n'était pas d'accord avec tous les faux pasteurs qui sont en train de pleurer pour demander le soutien de l'État gabonais. Lui, il disait, mais ce n'est pas normal que les gens de l'Église aillent pleurer aux gens, devant les gens du monde pour demander le soutien de l'État. Il avait raison. Mais à côté de lui, il y avait quoi? La photo de Branham. En thème idolâtrique. Paul dit, c'est simple, celui qui est de Dieu va s'éloigner du mal. Si quelqu'un est dans l'idolâtrie, il ne s'éloigne pas du mal. On n'a pas besoin de faire de grandes listes de doctrines. Tu prends le catholicisme, l'adoration de Marie, l'adoration des statues. On sait que ce n'est pas de Dieu. On n'a pas besoin de lire des livres. Paul dit, on ne va pas polémiquer sur qui est vrai, qui est faux. Dieu lui-même connaît tout ça. Dieu connaît les siens. Mais celui qui s'estime de Dieu, eh bien, qu'il pardonne aux autres. Parce que même au milieu de nous, Il y a des gens qui disent, ah, moi je pense que le frère tel n'est pas converti. Je pense que la sœur telle n'est pas... Eh bien, si toi tu penses toi être converti, montre-le par ton éloignement du mal. Pardonne aux autres. Aime les autres. Prie pour les autres. Qu'on ne t'attrape pas toi non plus dans l'impudicité. Voilà. C'est très facile de faire des polémiques. Et Paul dit, Dieu connaît qui est de lui. Mais si quelqu'un s'estime de Dieu, qu'il comprenne que Dieu, c'est le contraire du mal, qu'il s'en éloigne, qu'il ne fasse pas des coups bas aux autres, qu'il ne mente pas. Mais si on se reconnaît de Dieu parce qu'on se dit dans la bonne église ou bien dans la bonne doctrine, c'est faux. C'est une affaire personnelle, ce n'est pas une affaire de ton église, ce n'est pas une affaire de ta doctrine, c'est une affaire personnelle. Est-ce que tu es comme Dieu? C'est ça qui va compter. Est-ce que toi, tu ressembles à Dieu? C'est ça qui montrera que vraiment, toi, tu es serviteur de Dieu. Tu t'es éloigné du mal. Bien-aimé, arrêtons avec le péché sous toutes ses formes. Faisons du péché. Il faut traquer le péché par le Saint-Esprit. Non pas nous-mêmes commencer à chercher le péché partout, non. Mais lorsque le Saint-Esprit nous montre le péché, reconnaître et se repentir. Arrêtons de nous justifier. Reconnaissons nos erreurs. Ne supportons plus le péché au milieu de nous. Parlons-nous en vérité. Parce que nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu à notre époque aussi. Nous voulons voir la main de Dieu. Alors, frères et sœurs, que chacun, au lieu de regarder à la paille qui est chez l'autre, s'occupe de ses propres péchés et règle ça avec Dieu, au nom de Jésus. Et nous verrons la main de Dieu. Amen. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, pour te demander pardon, Seigneur, pour te demander pardon. Pardon à cause de tous nos péchés, Seigneur. Nous voulons être purifiés par le sang de l'agneau aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus excuser aucun de nos péchés. Nous voulons pardonner à nos parents, à nos enfants, à nos frères et sœurs en Christ et aux païens qui nous ont fait du mal. Nous voulons vivre dans l'amour pour les choses du ciel et non pas en amour pour les choses de la terre. Nous voulons, Seigneur, rechercher à être comme Jésus et non pas avoir du succès et avoir de la prospérité, qui est l'amour pour les choses de la terre, qui fait des gens des ennemis de Dieu, Seigneur. Nous voulons être simples comme Jésus, purs comme Jésus, et nous savons que cela est possible. Il suffit qu'on le demande, il suffit qu'on s'humilie, il suffit qu'on se repente, Christ nous prend en charge. Seigneur, aide-nous à persévérer à te suivre, en rejetant le péché sous toutes ses formes, les péchés qu'on néglige, jalousie, mensonge, critique injustifiée, tout ça, Seigneur, nous ne voulons plus tomber dans cela. Nous voulons fonctionner dans l'amour pour notre prochain. Merci, Seigneur, de nous purifier par le sang de l'agneau et qu'à partir d'aujourd'hui, nous commencions une nouvelle vie, loin du mal, loin du péché, car nous voulons voir ta main agir au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen.